Du 3 au 10 mars 2001 se tiendra à Abidjan la 5e édition du MASA. Vous êtes une compagnie de danse, de théâtre ou de musique résidant en Afrique? Pour participer au MASA, inscrivez-vous avant le 31 juillet 2000 en envoyant un dossier de présentation et une fiche technique sur le spectacle avec des documents audio et vidéo de vos dernières créations à Direction Générale du MASA, 09 Boîte Postale 2877, Abidjan 09, Côte d'Ivoire. Renseignements 225 20 21 35 20.
Le débat africain, Thierry Perret.
Internet et l'Afrique, le débat africain s'interroge aujourd'hui sur les chances du continent face à l'explosion de l'Internet. Internet est-il une chance pour l'Afrique ou au contraire le fossé va-t-il encore s'accroître entre pays nantis et pays pauvres confrontés à un nouveau défi à la fois technologique, économique et culturel? Les invités du débat africain aujourd'hui, Annie Chenoloké, chercheure au CNRS en France et coordinatrice d'un livre de synthèse paru cette année aux éditions Cartala intitulé « Enjeux des technologies de la communication en Afrique ». Avec nous également Samba Koné, ancien directeur de l'Agence ivoirienne de presse, chef de projet du CAFTIC, le Centre africain de formation aux technologies de l'information et de la communication à Abidjan. Pascal Renaud, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, également chargé de programme à l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, l'UNITAR. Et puis au téléphone, depuis Genève où il se trouve, Amadou Top, président de l'association sénégalaise Osiris, Observatoire sur les systèmes d'information, les réseaux et les inforoutes au Sénégal. Alors, Internet a commencé, on en conviendra, à se développer ces dernières années en Afrique, mais à un rythme qui semble encore sans commune mesure avec ce qu'on observe sur les autres continents. Première question, avant d'aborder les facteurs qui expliquent ce retard, assiste-t-on aujourd'hui en Afrique à une prise de conscience des enjeux d'Internet, alors que ce réveil a été particulièrement lent? Pascal Renaud, vous avez sans doute été un des acteurs qui ont permis à Internet de faire ses premiers pas en Afrique francophone. Où en serait-on aujourd'hui?
Nous avons commencé en 87, donc ça fait un moment, mais c'était l'époque de l'Internet des universités.
C'était à Dakar.
C'était à Dakar, exactement, à l'Institut de recherche agronomique de Dakar. Et soyons francs, en 87, personne ne comprenait exactement ce qu'on faisait. Donc aujourd'hui, tout le monde connaît. Moi, je crois qu'il y a un enthousiasme, d'ailleurs, immodéré. Il y a un intérêt certain des jeunes, des étudiants, de beaucoup de gens. Alors, en ce qui concerne les décideurs, c'est très, très variable. Il y a un certain nombre de gens qui ont pris fait et cause pour Internet et qui pensent que c'est un atout important et que c'est un atout pour ne pas quitter, pour ne pas se séparer du monde industriel. Mais je crois que, en majorité, quand même, les décideurs n'ont pas pris toute la mesure des enjeux.
Samba Koné, il y a encore très peu d'années, Internet était peu perçu par vos concitoyens, certainement, en Côte d'Ivoire.
Tout à fait, mais je pense que depuis 4 ans, au niveau des décideurs, déjà il y a eu une prise de conscience. J'ai signalé au passage que la Côte d'Ivoire a institué un fonds d'aide au développement des inforoutes. Et nous avons, depuis 2 ans, initié un projet pour justement essayer de faire pénétrer cette nouvelle technologie au niveau des structures de formation et en particulier au niveau de l'Institut de formation des journalistes d'Abidjan.
Alors, il y a des pays qui sont entrés de plein pied dans la révolution de l'Internet, c'est bien sûr l'Afrique du Sud, on peut peut-être éventuellement citer d'autres pays, peut-être l'Égypte. En Afrique francophone, les chiffres sont très faibles, par exemple, Annie Chenoloké.
Oui, c'est vrai qu'en Afrique francophone, les chiffres sont plus faibles. Mais une chose quand même qu'il faut dire, c'est qu'il faut beaucoup se méfier des chiffres. Il y a des polémiques aujourd'hui sur, par exemple, au Sénégal, combien y a-t-il d'internautes au Sénégal? Si l'on regarde, des statistiques ont été données en juin, juillet 99, qui, en particulier par un chercheur d'Afrique du Sud, qui donnait 2500 comptes Internet pour le Sénégal. Et au même moment, un chercheur sénégalais trouvait, lui, 9000 compte Internet. Bon, il y a vraiment un gros problème sur les chiffres. Tout dépend de quoi est-ce que l'on parle exactement. Des serveurs, des machines, des comptes, des courriers électroniques.
Alors, sans entrer dans le détail, comment Peut-on donner une idée de cette disparité réelle, ce contraste entre des pays qui sont entrés dans l'ère de l'Internet de manière comparable à ce qu'on observe ailleurs sur les autres continents et un certain nombre de pays, tout au moins en Afrique francophone, qui sont encore un peu à la traîne? C'est sensible.
Première idée à retenir, on peut estimer aujourd'hui, grosso modo, que le nombre de gens qui pratiquent peu ou prou Internet tourne autour de 2 millions de personnes. Et sur ces 2 millions de personnes, vous en avez 80% en Afrique du Sud. Et la vitalité d'Internet dans un pays se mesure au nombre de fournisseurs d'accès. Les pays qui ont le plus de fournisseurs d'accès sont ceux qui ont le plus grand nombre d'internautes. Et puis aussi, quelque chose d'important à voir, c'est qu'il n'y a que... Il y avait 15 pays, fin 99, peut-être quelques-uns de plus aujourd'hui, qui ouvrent des accès ailleurs que dans la capitale. Donc il y a en gros une quinzaine de pays actifs, et les autres beaucoup moins. Pour ce qui concerne l'Afrique francophone, les pays les plus actifs sont le Sénégal, le Ghana, ce n'est pas francophone, mais c'est l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire.
Alors est-ce que... Pour expliquer cette situation, il faut mettre en avant le rôle des autorités, l'environnement politique et administratif, Monsieur Samba Kone.
Mais je pense qu'il faut déjà essayer de voir la connectivité au niveau des télécommunications déjà. Hein? On ne peut pas parler d'Internet ni du développement de l'Internet si on n'a pas une bonne connectivité. Déjà, si on n'a pas une connectivité. Et en plus, ce n'est pas bonne. En Côte d'Ivoire, nous sommes à moins d'un téléphone pour 1000 habitants. Nous sommes loin. Hein, pour déjà assurer une meilleure communication déjà entre les Ivoiriens avant d'aborder le chapitre de l'Internet. Il faudrait, je pense, c'est un des freins du développement de l'Internet en Afrique, la connectivité. Nous avons des fournisseurs d'accès, c'est vrai, mais le problème du réseau téléphonique commuté est difficile, déjà au niveau de la capitale et après à l'intérieur du pays. Ça, c'est un problème. Ça, je pense que c'est un frein important.
Alors, qui détermine l'existence ou non de ces freins ou qui permet justement de passer ces obstacles technologiques, sinon la puissance publique?
Oui, c'est vrai, les télécommunications, c'est un facteur absolument fondamental. Et là, il y a un rôle éminent de l'État. Les sociétés que l'on appelait les opérateurs historiques, les sociétés nationales de télécommunications, étaient tous sous monopole public il y a encore 2-3 ans. Aujourd'hui, un certain nombre de pays se sont engagés dans un processus de libéralisation, sinon de privatisation de leur système de télécommunications. Mais c'est extrêmement difficile à réaliser. Pourquoi? Parce que le secteur des télécommunications représentait un petit peu une espèce, entre guillemets, de vache à lait pour les États. C'est quand même un secteur qui rapportait beaucoup à l'État et donc c'est difficile de se priver de ses revenus.
C'est à la fois un secteur qui rapportait beaucoup pour l'État et c'est un secteur qui n'a pas connu de développement en fait. Ça dépend des pays, c'est certain, mais dans la majorité des cas, on s'est contenté des réseaux existants et on a essayé de tirer le maximum de ressources qu'on pouvait tirer de ces réseaux-là sans envisager la modernisation. Nous avons des pays où il y a encore des centraux qui ne sont pas automatisés.
Oui, à ce niveau-là, il y a une grande différence entre justement le Sénégal et la Côte d'Ivoire.
Alors précisément, à Amadou Top, on cite souvent le cas du Sénégal comme exemple d'une politique en termes de télécommunications nettement plus dynamique qu'ailleurs. Alors vous allez me dire que c'est évidemment votre sentiment. Comment l'expliquer d'ailleurs?
Je pense que le Sénégal a envisagé la modernisation de son réseau à un moment où on était en train de changer un peu les technologies. Et il a choisi à ce moment-là de tout revoir, mais en utilisant ce qu'il y avait de mieux. Et c'est ainsi que nous avons toute une boucle nationale qui est faite avec de la fibre optique et que nous avons aujourd'hui à 100% numérisé le réseau. Mais je pense que l'exemple du Sénégal devrait être mérité pour la suite. Hein. C'est vrai que ce qui peut être considéré aujourd'hui comme un retard, au moment où il faudra le résorber, pourrait aussi... être un avantage. Parce que la plupart des pays qui vont intervenir dans toute cette nouvelle dynamique de la communication vont très probablement utiliser les dernières technologies. Je vois d'ici l'essentiel des pays aller vers l'amélioration de leur réseau de communication, non pas en continuant à creuser à avoir des fils de cuivre, mais en utilisant du téléphone sans fil, du wireless et peut-être de la téléphonie cellulaire et d'autres systèmes satellitaires certains pour améliorer le tout. Ce qui d'abord coûterait moins cher que de creuser partout, et ce qui leur permettrait immédiatement, j'allais dire, de faire un saut technologique qui les positionnerait assez rapidement vers l'utilisation des dernières possibilités qu'offre le réseau. Donc, dans le cas du Sénégal, on l'a vu, en faisant le saut, nous avons amélioré le réseau et acquis un certain nombre de mécanismes qui font qu'aujourd'hui nous utilisons toutes les possibilités de l'Internet. Je pense que l'ensemble des pays africains là, qui vont dans les mois, dans les années à venir faire la même révolution, pourraient aussi gagner beaucoup en faisant le saut technologique.
Oui, Anish Nloké.
Pour prolonger ce propos, je voudrais dire que le Sénégal se caractérise aussi par quelque chose d'assez original, c'est la multiplication des télécentres, c'est-à-dire la multiplication d'accès public-privé. On a accordé en 1992 à qui que ce soit la possibilité d'ouvrir des télécentres à un coût relativement peu élevé, ce qui a permis vraiment une dissémination du téléphone partout le long des routes. Et le téléphone n'est pas une innovation au Sénégal, c'est devenu une habitude, on se sert partout donc du téléphone, ce qui a été un atout certain pour ensuite l'introduction d'Internet, puisque les télécentres s'équipent en Internet maintenant, bon, davantage en ville, à Dakar, mais aussi dans les villes secondaires. C'est vraiment un très gros avantage pour ce pays.
Pascal Renaud, on a un certain nombre d'exemples de pays décidés à s'engager dans les nouvelles technologies de l'information, dans Internet, qui sont aujourd'hui encore, en tout cas, paralysés par un certain nombre d'obstacles en matière d'équipement. Ce sont évidemment les télécommunications. On peut citer le cas du Mali, où s'est tenue récemment une grande conférence consacrée à Internet. On sait que le président malien est très volontariste sur cette question. Alors, quelle solution, et je dirais quelle solution réaliste, s'offre à ces pays dans un court terme, sachant que on entend beaucoup parler de solutions technologiques miracles qui vont fournir des raccourcis, mais est-ce aussi simple ?
Une première chose, c'est qu'on associe peut-être des fois à l'excès le réseau de télécommunications de type phonique à l'Internet. Je crois qu'une des solutions pour les pays en développement ou les infrastructures, c'est d'avoir des accès collectifs. D'ailleurs, si on remonte au départ de l'Internet, je veux dire à son histoire, au départ, l'Internet, ce sont des laboratoires, des universités, et ce sont des grappes de machines dans des endroits fréquentés par beaucoup d'étudiants, par beaucoup de gens, qui sont reliés avec une seule ligne. Donc en fait, c'est l'Internet. Nécessitent des infrastructures, mais elles peuvent être concentrées. Et je crois que c'est une solution. Alors, je crois que ça a été évoqué, d'ailleurs, dans le cadre de Bamako 2000. Je crois que c'est la solution qui est adaptée à des pays dont les infrastructures sont modestes et qui n'ont pas, pour le moment, déployé des réseaux filaires suffisamment denses. On peut imaginer que dans chacun des pays d'Afrique, il y ait des bibliothèques dans chacun des grandes villes, qui est une sorte de bibliothèque virtuelle municipale, qui donne un accès collectif. Et ça, c'est à la mesure des moyens de ces pays-là et de l'aide internationale. Alors que refaire totalement les infrastructures pour arriver à des télédensités, c'est-à-dire le nombre de téléphones par habitant que l'on a dans les pays du Nord, c'est-à-dire un téléphone par habitant à peu près, ça nécessiterait des moyens qui sont très au-delà de ce que l'aide internationale ou de ce que les budgets nationaux peuvent mobiliser.
Samba Konen.
Oui, moi je voulais réagir là-dessus parce qu'il n'y a pas que le téléphone qui soit un frein au développement de l'Internet en Afrique. Il y a le coût du matériel aussi. Ce que Pascal dit est tout à fait exact, mais j'ai quelques réserves là-dessus parce que le développement de téléphone ne doit pas être lié à l'Internet. Il faut déjà, c'est un moyen de communication, c'est un outil qu'il faut développer au même titre qu'on développe les infrastructures routières dans le pays. Sinon, l'usage que tu indiques sur les bibliothèques virtuelles, sur les centres collectifs de navigation, on peut en parler tout à l'heure, mais j'ai dit qu'il faut que le politique décide de propulser l'Internet par, je ne sais pas, comme il en faut au Sénégal par exemple, avec une exonération sur le matériel informatique, sur l'environnement du matériel informatique, avec une volonté pour réduire au maximum les coûts et les redevances chez les providers et tout. Il y a toute une stratégie à mettre en place pour développer Internet.
Oui, Pascal Renaud.
Oui, non, moi je suis tout à fait d'accord. Hein. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne se rend pas compte dans les pays du Nord. Les communautés nationales, c'est le cas en tout cas des États-Unis et de la France, ont mis en place des plans, des stratégies d'entrée dans la cité de l'information. Ils ont étudié toutes les mesures à prendre pour fendre le pays. Il ne faut pas oublier que l'Internet, on commence à en parler au moment où Al Gore lance son initiative sur les infrastructures d'information. Et que l'Internet en France démarre vraiment à la suite du plan Jospin d'entrer dans la société de l'information, qui a permis de dépasser les craintes d'une hégémonie américaine sur cette nouvelle technologie et les arrogances de France Télécom. Je pense que en Afrique aussi, il faut que chacun des pays se pose la question, s'engage là-dedans, mobilise des énergies autour de ça, mobilise des jeunes, sensibilise la communauté politique, etc. C'est des plans d'entrée dans cette information qu'il faudrait partir en Afrique. Ça a été fait en Europe de l'Est et avec beaucoup de succès.
Amadou Top, l'État, évidemment, un rôle d'impulsion décisif. Est-ce que vous pensez que ça a été aussi déterminant que cela dans le cas du Sénégal? Est-ce qu'il n'y a pas eu autre chose, et notamment un dynamisme social?
Oui, il y a le dynamisme social qui peut jouer, mais Annie a parlé tantôt des télécentres qui n'étaient pas faits pour l'Internet, mais qui étaient faits pour résoudre le problème de l'accès au téléphone. Et je pense que par le biais des télécentres, on voit bien la difficulté à poser le problème sous l'angle statistique. Télédensité, un téléphone ou deux téléphones par 100 habitants, donc la télédensité est très basse. Au Sénégal, vous avez un téléphone qui passe tout son temps sonné ou qui passe tout son temps à être utilisé par toute une communauté, mais en Europe, vous aurez un téléphone qui est utilisé 2, 3 fois, 4 fois dans la journée au maximum. Et là, je pense que on pourra voir qu'il y a plusieurs modalités, notamment au niveau sociologique, qui font que l'utilisation communautaire permettra de résoudre un certain nombre de problèmes. Cela étant, il faut qu'il y ait un accompagnement des gouvernants. Parce que, vous en avez parlé tantôt, aux États-Unis, il y a eu l'initiative Al Gore. En France, il y a eu l'initiative du gouvernement Jospin. Mais cela date de 2-3 ans. En 2-3 ans, il y a eu une volonté politique et des résultats ont été assez rapidement mis en œuvre. Et ça, c'est lié plutôt à l'Internet. Et je pense qu'en Afrique aussi, il suffirait que les gouvernements aient conscience de l'importance aujourd'hui qu'il y a à être acteur actif de la suite de l'information pour que dans les 2-3 années à venir, par un certain nombre de mesures, bon, qui iraient de la défiscalisation à un autre nombre de mesures d'accompagnement, on pourrait arriver à faire des progrès assez sérieux. Et d'ailleurs, pour ne rien cacher, je pense qu'en Afrique, quoi qu'on dise aujourd'hui, la situation est bien, bien meilleure qu'il y a 2 ans. Elle est beaucoup, beaucoup... Et ensuite, le taux de progression en Afrique est probablement l'un des plus importants au monde, qu'il s'agisse des serveurs, qu'il s'agisse des providers, qu'il s'agisse des internautes. Mais cela est normal parce qu'on ne parle de pas beaucoup.
Annie Chenouloké.
Oui, je voulais... Au Sénégal, quand même, l'État a raisonné, non pas en termes de télédensité, en ce qui concernait les télécommunications, mais en termes d'accessibilité au téléphone. On estime aujourd'hui que 70 à 60...
Attention au terme, télédensité, vous entendez?
Télédensité, c'est le nombre de téléphones pour 1000 habitants, pour 100 habitants.
D'accord.
Le Sénégal, aujourd'hui, en est à 13, ce qui est pas mal par rapport à l'Afrique. Mais ce raisonnement en termes d'accessibilité aux moyens de communication est très important de la part d'un État. Et c'est à partir de cette politique d'accessibilité au téléphone que le gouvernement sénégalais a conçu, voulait faire du Sénégal un pays d'accueil pour les téléservices et pour Internet.
Un dernier mot sur cette question d'environnement, en prenant peut-être encore un exemple en Côte d'Ivoire.
L'exemple en Côte d'Ivoire, c'est que je dirais simplement qu'il faut, nous attendons une volonté politique manifeste. Par exemple, si on prend le cas d'un accès chez un provider, ça coûte 350 francs par mois, c'est ce qui représente le SMIG. Alors on peut bien disposer d'un équipement qu'on peut acquérir, parce qu'aujourd'hui il y a des revendeurs de seconde main, du matériel informatique, donc on peut acquérir un équipement de façon assez aisée, enfin relativement aisée, mais mettre le SMIG comme... redevance sur le provider plus la tarification RTC qui coûte quand même assez cher en Côte d'Ivoire, ben j'ai dit que tout ça sont des freins que seul le politique peut décider de lever pour aider au décollage de l'Internet en Afrique et en Côte d'Ivoire.
Le débat africain se poursuit dans quelques minutes. Nous nous retrouvons après le journal de RFI. À tout de suite.